Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission Témoin, j'ai eu beaucoup de joie et d'émotion à discuter, au téléphone bien sûr, avec cette ancienne infirmière.
Justement, est-ce que tu as vraiment l'impression que ça a beaucoup changé entre le temps où tu étais à l'hôpital comme infirmière et maintenant? Comment tu revois les choses?
C'est vrai que quand j'ai l'occasion d'aller à l'hôpital pour aller rendre visite et que je vois les infirmières devant leur ordinateur dans le couloir, je me dis, ah oh là là, qu'est-ce que c'était bien à mon époque. Heureusement qu'il n'y avait pas tout ça. On rentrait dans les chambres, on prenait le temps parfois de s'asseoir au bord du lit du malade pour le réconforter, lui parler. Bon, je ne dis pas qu'elles ne le fassent plus maintenant, mais l'image que j'ai, c'est elles sont derrière leur ordi, en train de taper, en train de valider ce qu'elles ont fait. Elles passent beaucoup de temps ainsi, si tu veux, tu vois. Mais bon, c'est...
Affaire de la paperasserie, quoi, en fait.
C'est que une vision qui n'est pas sur la journée, qui est sur un petit temps de visite, tu vois.
Oui.
Mais c'est vrai que souvent, je dis, qu'est-ce que j'ai eu de la chance de faire mon métier à l'époque où je l'ai fait. Parce qu'aujourd'hui... déjà à l'époque où je l'ai fait, quand on était infirmière en chirurgie, le chirurgien nous faisait vraiment confiance, on faisait des choses hyper intéressantes. Maintenant, la chirurgie, elle a tellement progressé qu'il n'y a plus les mêmes gestes de compétences à faire, c'est tellement simplifié. Maintenant, quand les choses se font par célioscopie et tout ça, c'est très différent.
Parce que la relation humaine, elle existe toujours, quoi. Le type qui est malade...
relation humaine, elle est toujours... Oui. Sauf qu'à notre époque, les malades restaient 8 ou 10 jours pour une intervention. Maintenant, ils rentrent le matin, les trois quarts ressortent le soir. T'as plus la même relation. Avant, moi, je me souviens, on avait plusieurs jours, les jours opératoires des malades, un travail fou. Et puis après, au bout de quelques jours, les gens n'avaient plus leurs draps, n'avaient plus tous les tuyaux qu'il fallait surveiller. Et ce temps, on avait un peu du temps pour être dans la relation et puis les accompagner moralement s'ils l'avaient pas. Ça c'est un peu perdu aujourd'hui parce que les gens sont beaucoup moins longtemps à l'hôpital.
Oui, il y a ça aussi, effectivement. On va à l'hôpital, on se fait faire son extraction de quelque chose, et puis...
Voilà.
Oui, alors c'est sûr que là, ce Covid-19, là, qui a mobilisé des gens longtemps à l'hôpital, parce qu'il y en a qui sont restés longtemps, autre chose.
Oui. Tu vois, moi, ma petite cousine... qui a été greffée, elle en pouvait tellement plus d'être confinée, de ne pas voir son mari, de ne pas voir ses enfants, qu'elle en était complètement dans la déprime, si tu veux, de tellement être coupée de sa famille et tout ça. Et un jour, trois soignantes sont venues auprès d'elle, se sont assises sur le bord de son lit, ont passé du temps pour lui parler. Et après ce temps de discussion, il a été décidé que son mari, il fallait qu'il revienne la voir, qu'il fallait absolument l'autoriser à revenir. Et à la suite de ça, ses globules blancs ont proliféré, tu vois.
Donc, finalement, il y avait aussi la dimension affective, revoir
Tout à fait. Mais déjà, les soignants, ayant pris ce temps pour... sentir la détresse et son découragement, parce que naturellement c'est assez une greffe c'est quand même très lourd. Très lourd. Elle a eu des aftes dans la bouche jusqu'à l'œsophage, à ne pas pouvoir manger, à avoir une alimentation par gavage gastrique, tu vois, tellement elle était incapable de manger, de parler, de... Ah non, ça a été... Elle est presque en train de sortir de l'eau.
Elle a été greffée de quoi?
D'une une moelle osseuse, elle avait un lymphome, enfin une rechute de lymphome, et c'était la seule solution qui s'offrait à elle pour guérir de son lymphome, si tu veux. Hein, donc, cancer de la lymphe.
De la lymphe. Comme quoi aussi, donc la part, même dans des choses qui paraissent très, très, très complexes, il y a la dimension psychologique et morale. Oui. Et là, le rôle des infirmières, évidemment, c'est très important.
Ah bah, des infirmières, des soignants, des soignants. Hein.
Voilà. Des gens qui sont là, et pas simplement du geste technique.
Voilà.
Comment tu es venue à faire des blues?
Un message pour m'en informer, pour dire où on pouvait trouver les patrons, nanana, tout ça. Sur le moment, moi, ça m'a... Oh, j'ai dit, mais moi, je me vois pas faire ça. Si on était rassemblés à plusieurs, mais avec plaisir, ça serait beaucoup plus facile pour moi, mais... Bon, c'était... Et puis moi, je me sers pas énormément de machines. J'ai une bonne machine. Hein. Et le fait de me remettre à travailler, j'ai dit, qu'est-ce que c'est bien, parce qu'en fait, ça me refamiliarise avec ma machine. Tu vois, j'avais l'impression que c'était un don que je faisais pour les soignants, mais je le faisais pour moi-même. Toi, je le recevais en don pour moi-même. Et moi, pour moi, bah, les blues que je fais, c'est vraiment un peu pour mes sœurs de cœur. Bon, ce sera peut-être pour des infirmiers aussi, parce qu'elles sont quand même un peu grandes, mes blues. Je me dis, bon, mais bon, il y a des soignants qui sont costauds aussi, un peu, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, ça a été vraiment... c'est comme ça que je le fais, moi, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, faut que je fasse un petit cœur, parce que comme ça, ça va leur parler. Ça montre que la personne qui a confectionné la blouse, elle est de tout cœur avec eux.
Oh, un petit cœur, parce que moi, je me dis, bon, d'habitude, c'est des blouses à usage unique, non?
Normalement. Heureusement, et parce que dis donc, le temps qu'on passe, allez, mais... bon, moi, je sais pas faire à moitié, donc elles sont bien faites, tu vois, je fais comme si c'était un vêtement que je me fais, tu vois, je mets pas vite pour en faire une quantité, non, c'est important que je les fasse bien, parce que je me dis, pour les soignants, je dois pas saboter mon travail, je dois bien le faire, et... Non, parce que c'est quelque chose. Hein, j'ai ma nièce qui est infirmière, il y a ma voisine qui est infirmière, une fille a une collègue de mairie qui est infirmière. Bon, je sais par les échanges que j'ai que c'est quand même que c'est une épreuve, hein, de soigner les malades du Covid. Hein. Ah ouais,
c'est une épreuve parce qu'ils sont...
C'est angoissant, parce que parce qu'ils ont quand même peur de le ramener à la maison, à leur mari ou à leurs enfants.
Ah oui, aussi, il y a cet aspect-là.
Il y a ça, hein. Ah ouais. Ah ouais, ma nièce, elle me disait, moi, à 20h, quand il y a les infos, je reste jamais. Je m'en vais dans la chambre avec les enfants. Je peux pas voir... les salles de réanimation avec les malades, ça m'angoisse. Je m'en vais pour pas voir.
Elle est où? Elle est à Dreux, donc.
Elle est sur. Elle est en EHPAD. Elle est dans une maison de retraite.
Oui.
Ah. Et la fille de ma collègue de mairie, elle est sur Paris. Elle travaille de nuit. Et Sylviane, sa maman, elle me dit, oh, y a des fois des matins, après la nuit, ça a été tellement, c'est quand même dur, hein, dit, elle n'en pouvait plus quand elle arrivait le matin. La nuit, ils avaient le numéro de téléphone d'une psychologue qu'elle pouvait appeler si besoin pendant leur nuit de travail. Tu vois, ils étaient en lien avec un thérapeute pour si c'était trop.
Oui, parce qu'en fait, il y a aussi les gens qui, de trop difficile, c'est quelquefois aussi les gens qui t'échappent et qui meurent malgré les soins que tu fais.
Oui, bah oui.
On peut espérer.
Non, j'espère.
Mais toi, tu as été en... Alors, attends, quelle différence tu fais? Parce que tu étais aussi en soins d'accompagnement des personnes qui allaient mourir, en fait, quand tu étais à Jeanne Garnier. Et tu... Tu ressens que c'est différent parce que là, il n'y a pas tout le soin qui entoure les gens qui vont mourir.
Ah bah, c'est très... Bon, moi, j'ai voulu finir par les soins palliatifs parce que, justement, y avait une qualité de temps de présence, de soutien par les médecins, tout était réfléchi, rediscuté... c'était le malade qui nous guidait dans nos gestes, tu vois.
Oui.
C'était vraiment le malade qui nous guidait. Et bon, moi je me souviens au début que j'étais à Jeanne Garnier de me dire oh je vais pas tenir, c'est trop d'une chambre à l'autre c'est quelqu'un qui va mourir, je vais pas tenir. Et puis les choses ont très vite basculé parce que je me suis dit, non, mais aujourd'hui, il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort aujourd'hui. Donc, ce sont des vivants que je soigne.
Oui, voilà, tu soignais des personnes vivantes et tu les accompagnais justement dans leur vie, dans la fin de leur vie, mais dans leur vie.
Voilà. Voilà.
Oui, donc... évidemment, c'est différent de lorsqu'on est pressé par le nombre de personnes qui arrivent ici et qui...
Ah bah, puis en soins palliatifs, où j'étais, c'était quand même assez le top. Hein. À Jeanne Garnier, c'était... s'il manquait une personne dans l'équipe, on devait être 6. S'il en manquait une, il faisait appel à la boîte d'intérim et la personne, elle arrivait. Hein.
Ah oui.
C'était systématique, hein. Si on faisait pas appel, si la direction faisait pas appel à la boîte d'intérim, c'est parce que on jugeait avec notre consentement qu'on pouvait se débrouiller à 5 parce que la charge elle était pas trop lourde. Mais si la charge elle était très lourde, la charge de soins, eh bien systématiquement la personne qui manquait était remplacée.
Oui, ça n'a pas l'air d'être ça actuellement à l'hôpital.
Ah bah non.
Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose effectivement à revoir et à aider les soignants à obtenir que le soin, ce soit le soin, et puis voilà. Ouais.
Au-delà de ce oui mélancolique, il faut sûrement que les soignants et nous-mêmes soyons attentifs pour que le soin reste ce bien commun dont nous avons tous besoin. Maintenant, chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.